un grand cru, comme on va le voir avec vous. Bonjour Joanne Montet.
Bonjour.
Et on commence finalement par la grande nouvelle, un astronaute belge, un wallon de surcroît.
That is Raphaël Liégeois.
Et voilà, et on le félicite, il dit merci, on mange un peu tout de suite le dessert en fait.
Oui,
la
tout à fait.
La cerise sur le gâteau spatial, parce que ça ne vous a pas échappé, c'est d'ailleurs encore assez récent, puisque le 23 novembre, l'Agence spatiale européenne a annoncé le nom de ses 5 nouveaux astronautes européens de carrière, et parmi eux, oui, notre Belge, le Namurois nommé Liégeois, pas un pilote de chasse cette fois, mais un militaire de carrière, pas un militaire de carrière justement, mais un pur neuroscientifique qui a fait sa thèse à l'Université de Liège sur le cerveau. Alors je vous propose pour commencer de remonter cette année un peu à l'envers, en commençant par la fin, écoutez Raphaël Liégeois nous parler de son année 2022.
2022, elle a été rythmée par les différentes étapes de la sélection. En février, on avait la troisième étape à Hambourg où j'ai rencontré un astronaute pour la première fois, en tout cas de près, pour une première interview, un premier test. Et puis voilà, il y a eu quatre autres étapes après et cette année 2022, elle a été rythmée par ça, par le sommet quand même à Toulouse aussi. Je me souviens avoir entendu le discours du président Macron. Disons que je pense qu'il arrivait vraiment à parler des dimensions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on parle d'espace, ce que ça représente pour la Terre aussi, mais aussi pour l'humanité, de se dire qu'on envoie des représentants dans l'espace. Donc c'était presque à un niveau philosophique que j'ai trouvé très intéressant. Donc ça, c'était en février à Toulouse, je pense. Et puis les images du télescope, hein, James Webb, je pense qu'on a tous rêvé en voyant ces images-là. Et se dire que à notre échelle, on va pouvoir peut-être contribuer à ces choses-là, c'est extraordinaire.
Oui, ça donne l'infiniment grand, avec un trou noir, quoi derrière, d'autres galaxies.
Exactement, oui, c'est ce que je trouve aussi intéressant, et ça m'intéressait aussi dans les neurosciences, c'est que ça, disons que ça peut être un point de départ pour des questions plus personnelles, plus philosophiques, voire religieuses pour certains. Donc c'est ça qui m'intéresse, et c'est aussi un point commun que je vois entre les neurosciences et la recherche spatiale.
Et voilà, au programme maintenant pour l'astronaute, deux années de formation qui commencent en avril à Cologne, en Allemagne, puis l'espoir sérieux de participer à l'une des futures missions européennes vers la Station Spatiale Internationale d'ici à 2030. Il devrait y avoir 7 ou 8 astronautes envoyés à bord de l'ISS pour des missions de 6 mois.
Mais l'autre objectif européen, Joanne, qui a déjà commencé en 2022, c'est quand même toujours la Lune.
Yes, the Moon. La capsule Orion, elle a déjà fait le tour de la Lune sans humain à bord.
Oui.
Mais ce n'est que le début de ce programme Artemis de la NASA, auquel les Européens, nous-mêmes, nous sommes impliqués. L'agence spatiale participe notamment à la construction d'une sorte d'antichambre de la Lune qu'on appelle le Gateway. C'est un avant-poste en orbite autour de la Lune qui servira d'étape pour un jour remettre le pied sur la Lune.
Et ce sera pour Raphaël Liégeois, ça, le pied sur la Lune ?
Ben, je suis sûre qu'il espère, mais c'est très peu probable. On peut parier que ce seront plutôt des anciens, des gens de la promotion d'astronautes précédente, celle de 2008, qui seront sans doute de service, c'est-à-dire la génération du Français Thomas Pesquet. Je l'ai rencontré d'ailleurs, Thomas Pesquet, il en a profité pour donner quelques petits conseils secrets à notre Raphaël Liégeois.
Le conseil secret, c'est de la patience et de la flexibilité. En fait, c'est bête à dire, mais on peut attendre des années avant d'aller dans l'espace. Donc, il faut avoir de la patience, qu'il ne soit pas passif. On ne va pas juste s'asseoir sur une chaise et attendre, mais il faut savoir s'occuper, savoir profiter de chaque moment, même si on a l'impression que c'est ce moment, il est sur le chemin de ce qu'on attend. Donc, on a envie que ce soit fini tout de suite. Il faut arriver à profiter de cette vie-là en attendant d'aller dans l'espace, parce que c'est quand même des bons moments. Et ça va quand même peut-être être 10 ans de sa vie qu'il ne faut pas mettre entre parenthèses. Et l'autre conseil, c'est de s'adapter. En fait, il faut vraiment développer cette capacité à opérer sans script, d'être à l'aise un peu dans tous les domaines, parce que c'est ça qu'on attend d'eux. Hein. C'est pas des gens qui doivent avoir une seule manière de travailler. Ils vont être dans des équipes multiculturelles, internationales. Un jour, ils vont être leaders. Un autre jour, ils vont être suiveurs. Donc vraiment, il faut développer cette compétence de s'adapter à la situation et d'être capable de fonctionner. C'est pour ça qu'on veut des humains dans l'espace, parce qu'on sait que la valeur ajoutée de l'ingéniosité, de l'inventivité, de la capacité de réaction, de prise de décision, ça nous apporte un retour scientifique supérieur à des robots.
Des humains pour aller donc sur la Lune, mais après la Lune, c'est Objectif Mars.
Oui, en fait, c'était déjà Objectif Mars en 2022, mais il faut dire que cette année, ça a été vraiment un rendez-vous manqué, parce qu'à l'automne devait se dérouler la mission ExoMars, dans laquelle la Belgique est impliquée, mais à cause de la guerre en Ukraine, le rover européen baptisé Rosalind Franklin n'a plus eu de lanceurs russes. Donc Bardaf, plus de lanceurs Soyouz, les Russes les ont retirés de Guyane, et donc cette mission elle est reportée à 2028. C'est loin, mais c'est hyper important. Que va-t-elle nous apprendre, cette mission? C'est la professeure Véronique Dehan de l'UC Louvain qui supervise l'étude en Belgique. Elle est aussi chef de service à l'Observatoire Royal de Belgique.
En fait, on sait déjà, avec toute l'exploration spatiale, que de l'eau, il y en a eu dans le passé de Mars. Donc au tout début du système solaire, entre 4,6 milliards d'années et 3,5 milliards d'années, on a eu de l'eau à la surface de Mars. Cette eau a disparu à partir de 3,5 milliards d'années. Mars est devenue sèche. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère de Mars est partie. On avait une énorme atmosphère avant, et puis tout d'un coup, cette atmosphère a disparu. Donc on sait que si on doit aller chercher la vie, parce que pour avoir la vie, il faut de l'eau liquide, ça c'est certain. Pour chercher de la vie, il faut chercher dans le passé de Mars. Et donc la planète Mars est une planète super intéressante à partir du moment où on peut revenir dans son passé. On voit les traces du passé de Mars à sa surface. On voit des anciens lits de rivières, des anciens deltas de rivières, etc. Donc on voit énormément de traces d'eau liquide dans le passé de Mars. Et si la mission ExoMars va essayer de retrouver dans ces anciens terrains des traces de vie passée dans le sous-sol, ils doivent aller très profondément pour être évidemment en dehors de tout ce qui s'est passé dans l'historique martien au-delà de 3,5 milliards d'années.
En fin 2022, c'est aussi l'année où Mars a révélé son intimité, ses dessous, à l'équipe de Véronique Dehan, parce que la scientifique se posait une question vraiment existentielle à l'intérieur de Mars. Le noyau est-il liquide ou solide? Et bien, elle a trouvé la réponse.
Si vous prenez un œuf cuit, un œuf non cuit et que vous les faites tourner, ils tournent de manière différente. C'est la même chose pour les planètes. En regardant leur rotation, on peut dire ce qui se passe à l'intérieur profond et en particulier avoir de l'information sur le noyau de Mars. Cette expérience nous a permis à nous de voir la rotation de Mars et d'obtenir de l'information sur l'intérieur profond et en particulier de répondre à la question est-ce que le noyau est liquide ou pas. Et en effet, il était liquide et on a déterminé les dimensions, on a pu déterminer aussi la densité. On a vu que ce noyau était beaucoup moins dense que ce qu'on pensait. Mais enfin, bon, voilà, ce sont des découvertes auxquelles on ne s'attendait pas et puis qui finalement répondent à des questions scientifiques qu'on s'était posées il y a plusieurs années et pour lesquelles on a travaillé pendant des dizaines d'années. Donc, c'est fabuleux.
Voilà, l'exploration de Mars, elle fait commencer, puisque l'ambition après la Lune, c'est d'envoyer l'humain sur Mars d'ici 2040. Et ça devrait être possible après le dernier volet de la mission Artemis, toujours donc en collaboration avec la NASA.
Et puis on a vu aussi cette année de magnifiques images, celles incroyables que nous a livrées le fameux télescope James Webb.
Oui, la star des télescopes spatiaux. Oui. Il a vu du dioxyde de carbone, du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète en dehors de notre système solaire. Des images époustouflantes. Il a détecté la plus ancienne galaxies jamais observées. Et puis on a aussi découvert, mais là c'était pas James Webb, c'était le fruit du travail de 19 observatoires différents, la première photo du gigantesque trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A.
C'est aussi cette année que la NASA a fait un exercice particulier, Johan. Et si un astéroïde menaçait de nous tomber dessus, pourrait-on le dévier?
Eh bien la réponse est oui. C'est la mission DART, l'agence spatiale européenne américaine, a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire en projetant un vaisseau contre sa surface. On revit un peu l'ambiance dans cette salle de contrôle. On était en septembre. Vous allez l'entendre. L'explosion de joie.
Oh my god. 3, 2, 1.
Donc c'était une mission test, hein, une mission inédite de défense planétaire. Et l'objectif a été atteint. On a percuté Dimorphos, le satellite d'un astéroïde nommé Didymos. La NASA a donc bien réussi à le déplacer. C'est plutôt rassurant, hein, en cas de peu probable menace d'astéroïde.
Alors là, on a beaucoup parlé de projets européens et américains, des agences spatiales, mais il y a aussi quand même la collaboration toujours évidemment avec le privé et toute la compétition avec la Chine.
Oui, n'oublions pas la Chine. Elle a aussi sa station spatiale internationale. Elle a fini l'assemblage. 3 astronautes des taïkonautes sont arrivés à bord fin novembre, rejoindre les 3 autres qui étaient déjà. Parce que l'espace, c'est un énorme enjeu stratégique économique internationale. Et puis pour revenir à notre petit nombril, la Belgique l'a bien compris, on est à la pointe dans le domaine, on est le 5e contributeur de l'Agence spatiale européenne. Et l'espace, c'est aussi quand même la meilleure manière de prendre la température de notre planète, la Terre, grâce aux satellites qui permettent de suivre l'évolution de la pollution atmosphérique et de la déforestation.
La Belgique n'a pas à rougir de son savoir-faire spatial.
Certes.
Merci Joanne.